Chapitre 2. Articulation. 1. Une heure avant l'aube, Roland s'éveilla de l'un de ses rêves ignobles de Jericho Hill. Le corps. Il y avait quelque chose au sujet du corps d'Arthur l'aîné. À ses côtés, dans le grand lit, le vieux dormait, les sourcils froncés, comme au milieu d'un cauchemar. Son front bruni était marqué d'un pli en zigzag qui brisait les bras en croix de sa cicatrice. C'est la douleur qui avait réveillé Roland, et non son rêve dans lequel le corps glissait des mains de son ami Cuthbert au moment de sa chute. Le pistolero se sentit pris dans un étau, des hanches jusqu'aux chevilles. Il arrivait à visualiser la douleur comme une série de disques, brillants et brûlants. C'était le prix à payer pour son extravagante prestation de la veille. S'il n'y avait que ça, ça aurait été parfait, mais il savait que c'était pas dû seulement au fait d'avoir dansé le Comala de manière un peu trop enthousiaste. Il ne s'agissait pas non plus de l'oumatisme, comme il avait essayé de s'en convaincre depuis quelques semaines, la période nécessaire pendant laquelle son corps devait s'adapter au climat humide de l'automne. Il n'avait pas manqué de remarquer que ses chevilles, notamment la droite, s'étaient mises à enfler. Il avait observé une enflure similaire des genoux, et même si ses hanches avaient l'air encore bien, s'il posait les mains dessus, il sentait la droite bouger sous la peau. Non, rien à voir avec le rhumatisme qui avait affecté si tristement Cort dans sa dernière année, l'obligeant à rester cloîtré près du feu les jours de pluie. C'était pire. De l'arthrite, et le genre grave, l'arthrite sèche. Elle ne tarderait pas à s'attaquer à ses mains. C'est bien volontiers que Roland aurait livré sa main droite en pâture à la maladie, si elle avait pu lui suffire. Il avait appris plus d'un tour à cette main, depuis qu'elle avait été amputée de deux doigts par les omastruosités, mais elle n'avait plus jamais été la même. Seulement, ça ne se passait pas comme ça avec les maladies, pas vrai? On ne pouvait pas les calmer à coups de sacrifice. L'arthrite viendrait, quand bon lui semblerait, elle s'acharnerait où elle voudrait. « J'ai sûrement un nom devant moi, » se dit-il allongé à côté du religieux endormi, venu du monde dédié de Susanna et de Jake. « Peut-être même deux. »« Non, pas deux. »« Peut-être même pas une année entière. »« Comment disait Eddie déjà ?»« Arrête de te raconter des cracks. » Eddie avait tout un stock d'expressions de son monde, mais celle-là était particulièrement bonne. Particulièrement pertinente. Il n'allait pas laisser tomber la tour si Papy le Tordu restait capable de tirer, de seller un cheval, de découper une lanière de cuir, voire de découper du bois pour le feu, des tâches aussi simples que celle-là. Dans ce cas, il serait de la partie jusqu'à la fin. Mais il n'était pas enchanté à l'idée de devoir chevaucher derrière les autres, en dépendant d'eux, peut-être attaché à sa selle avec les rênes, parce qu'il ne pourrait plus s'accrocher au pommeau. Un boulet, en somme, un boulet, qu'il ne réussirait pas à tirer quand il faudrait accélérer la cadence. Si on en arrive là, je me tuerai. Mais il ne le ferait pas, c'était la vérité. Arrête de te raconter des cracks. Ce qui le ramena à Eddie. Il fallait qu'il lui parle de Susanna le plus vite possible. Il s'était réveillé avec cette certitude, et elle était presque aussi déplaisante que la douleur elle-même. Ça ne serait pas une partie de plaisir, mais il fallait en passer par là. Il était temps qu'Eddie soit au courant. Pour Mia. Elle aurait plus de mal à s'éclipser maintenant qu'ils étaient en ville et sous un toit, mais il le faudrait, de toute façon. Elle ne pouvait pas plus composer avec les besoins de son bébé et ses envies à elle que Roland ne pouvait composer avec les cercles brillants de douleur qui lui enserraient la hanche et le genou droit ainsi que les chevilles, tout en épargnant ses mains surdouées jusqu'ici. S'il ne prévenait pas Eddie, il pourrait s'en suivre de terribles ennuis. Et ils avaient besoin de tout sauf d'ennuis supplémentaires en ce moment. Il ne s'en relèverait pas. Ainsi allongé dans le lit, Roland luttait contre les élancements en regardant le ciel s'éclaircir. Il fut stupéfait de constater que la lumière ne venait plus du plein est. Elle avait maintenant légèrement dérivé vers le sud. Le lever du soleil dérivait, lui aussi. 2. La gouvernante, âgée d'environ 40 ans, était une belle femme. Elle s'appelait Rosalita Muñoz, et quand elle vit la démarche de Roland qui s'approchait de la table, elle lui dit « Vous, c'est une tasse de café, et vous venez avec moi. » Tandis qu'elle allait prendre la cafetière sur le poêle, Callahan pencha la tête vers Roland avec un air interrogateur. Eddie et Susanna n'étaient pas encore levés. Ils avaient donc la cuisine pour eux tout seuls. « Quelle est l'ampleur des dégâts, monsieur ? » demanda-t-il. « Des rhumatismes, rien de plus, » fit Roland. « Cette famille, du côté paternel, nous en souffrons tous. À midi, il n'y paraîtra plus, grâce au soleil et à l'air sec. » « Je connais les rhumatismes, » dit Callahan. « Remerciez Dieu que ce ne soit rien de pire. »« C'est ce que je fais. » Il se tourna vers Rosalita qui apportait des tasses de café fumant. « À vous aussi, je vous dis grand merci. » Elle posa les tasses, fit la révérence, puis scruta son visage d'un air timide et grave. « Jamais je n'ai vu une danse du riz aussi réussie, Sai. » Roland lui adressa un sourire de travers. « Je le paie ce matin. Je vais vous remettre d'aplomb. J'ai une huile de chat, une de mes recettes spéciales. D'abord, elle va faire disparaître la douleur, et ensuite, vous ne boiterez plus. Demandez à père. » Roland se tourna vers Callahan, qui hocha la tête. « Alors je vous prends au mot. » « Grand merci, Sai. » Elle s'inclina de nouveau, puis prit congé. « J'ai besoin d'une carte de la Cala, » dit Roland quand elle eut quitté la pièce. « Pas besoin d'une œuvre d'art, il faut juste qu'elle soit précise et que les distances soient fiables. Vous pourriez m'en dessiner une ?»«
Pas du tout. » « Je fais un peu de caricature, mais je ne pourrais pas vous dessiner une carte qui vous mène jusqu'au fleuve, même avec un pistolet sur la tempe. C'est seulement que je n'ai pas ce talent, mais j'en connais deux qui pourraient vous être utiles. » Il éleva la voix. « Rosalita ! Rossi ! Venez une minute, vous voulez bien ? »
3. 20 minutes plus tard, Rosalita prenait Roland par la main de sa poigne ferme et sèche. Elle le conduisit jusqu'à l'office et ferma la porte. « Retirez votre pantalon, je vous prie. Ne faites pas le timide, car je ne pense pas avoir de grosses surprises, à moins que les hommes soient bâtis autrement à Gilead que dans l'intérieur. »«
Je ne crois pas, non, » répondit Roland en laissant choir son pantalon.
À présent, le soleil était levé, à la différence d'Eddie et de Susanna. Roland n'était pas pressé de les réveiller. Beaucoup de réveils matinaux les attendaient, beaucoup de nuits de veille aussi, à n'en pas douter. Aussi avait-il décidé ce matin de les laisser profiter de la paix d'un toit au-dessus de leur tête, du confort d'un matelas sous leur dos et de cette exquise intimité offerte par une porte dressée entre leur secret et le reste du monde. Une bouteille de liquide pâle et huileux à la main, Rosalita émit un sifflement avec sa lèvre inférieure charnue. Elle observa le genou droit de Roland, puis toucha sa hanche droite de la main gauche. Il eut un léger mouvement de recul à son contact, bien qu'elle fût la douceur incarnée. Elle leva les yeux vers lui. Ils étaient si sombres qu'on aurait pu les croire noirs.
« Ce ne sont pas des rhumatismes, c'est de l'arthrite, du genre qui se propage rapidement. »«
Si fait. Là d'où je viens, on l'appelle parfois
L'arthrite sèche, dit-il. Pas un mot à père ou à mes amis. Elle le fixa attentivement de ses yeux sombres.
Vous ne pourrez pas garder le secret très longtemps. Je vous entends très bien. Cependant, tant que je le pourrai, je garderai le secret. Et vous m'y aiderez.
Si fait, aucune crainte, je vous suivrai.
Grand merci. Est-ce que ça va m'aider ?
Elle baissa les yeux sur la bouteille et sourit.
Si fait, c'est un mélange de menthe et de gomme des marais, mais l'ingrédient secret, c'est de la bile de chat que je rajoute. Rien que 3 gouttes par bouteille, vous intuitez ?
Ce sont les chats des roches. Ils viennent du désert de la grande pénombre.
Elle inclina la bouteille et se versa un peu d'huile dans la paume. L'odeur de menthe monta immédiatement aux narines de Roland, suivie par une odeur mineure, beaucoup moins plaisante. Oui, il voulait bien croire que c'était celle de la bile d'un puma ou d'un cougar ou bien de n'importe quelle bestiole qu'on appelait chat des roches dans le coin. Elle se baissa pour faire pénétrer le mélange dans les rotules du pistolero, et il ressentit une chaleur immédiate et intense, presque insupportable. Puis elle s'apaisa un peu, et il éprouva un soulagement qu'il n'aurait pas osé espérer. Quand elle eut fini de loindre, elle demanda
« Comment va votre corps à présent, pistolero Sai ?»
Plutôt que de répondre par des mots, il la pressa contre son corps mince et nu et la serra très fort. Elle lui rendit son étreinte sans honte et avec beaucoup de naturel, et lui murmura à l'oreille « Si vous êtes bien ce que vous dites, vous devez les empêcher de prendre les babets. » « Non, pas un seul. Peu importe ce que peuvent raconter les gros bonnets comme Eisenhardt et Telford. Nous ferons de notre mieux. »
Bien. Grand merci.
Elle s'écarta et regarda le sol. Il y a une partie de votre corps qui ne souffre pas d'arthrite, ni de rhumatisme d'ailleurs. Elle m'a l'air très vivace. Peut-être une dame contemplera-t-elle la lune ce soir, pistolero, se languissant d'un peu de compagnie.
Et peut-être en trouvera-t-elle, répondit Roland.
« Accepteriez-vous de me donner une bouteille de ce truc pour mes déplacements autour de la Cala, ou bien il vous est trop précieux ?»«
Non, pas trop précieux. » Le sourire qui avait accompagné ses sous-entendus avait disparu, remplacé par un air grave. « C'est seulement qu'il ne vous soulagera plus très longtemps. »«
Je sais, » fit Roland.
« Et peu importe. »
On passe le temps comme on peut, pour finir. Le monde nous reprend tout.
Si fait, acquiesça-t-elle, il nous reprend tout.
4. Lorsqu'il ressortit de l'office, en train de boucler sa ceinture, il entendit enfin bouger dans la chambre. Un murmure d'Eddie, suivi d'une cascade de rires féminins, encore endormis. Callahan se tenait près du poêle, se servant une tasse de café frais. Roland le rejoignit et lui dit de manière un peu précipitée
« Il m'a semblé voir des macrènes sur la gauche du chemin entre ici et l'église. »«
C'est exact. Et elles sont mûres. Vous avez l'œil, dites-moi. »«
Si on veut, oui.
J'aimerais aller en remplir mon chapeau. » Et je voudrais qu'Eddie me rejoigne, pendant que sa femme se fait des œufs brouillés, mettons. Vous pouvez m'arranger ça?
Je pense oui, mais
parfait, dit Roland, et il sortit. 5. En attendant Eddie, Roland avait déjà rempli la moitié de son chapeau de baie orange, et il en avait même avalé quelques bonnes poignées. Ses douleurs aux jambes et aux hanches s'étaient réduites avec une rapidité confondante. Tout en cueillant, il se demandait combien Cort avait été prêt à débourser pour une seule bouteille de l'huile de chat de Rosalita Munoz.
« Mon vieux, ces trucs me rappellent les fruits en cire que ma mère posait sur un apron pour Thanksgiving, » fit Eddie.
« Ça se mange, vraiment ?»
Roland attrapa une macraine presque aussi grosse que le bout de son doigt et la fit sauter dans la bouche d'Eddie.
« Alors, est-ce qu'elles ont aussi le goût de la cire, Eddie ?»
Les yeux d'Eddie, d'abord prudents, s'élargirent soudain. Il avala, fit un grand sourire et en cueillit lui-même une pleine poignée.
On dirait des canneberges, mais en plus sucrées. Je me demande si Suze sait faire les muffins, même si elle ne sait pas. Je parie que la gouvernante de Callahan...
Écoute-moi, Eddie. Écoute-moi attentivement et garde le contrôle de tes émotions au nom de ton père.
Eddie tendait la main vers un buisson particulièrement chargé de macraines.
Il s'immobilisa et se contenta de fixer Roland d'un air impassible. Dans cette lumière matinale, Roland fut frappé de constater combien il paraissait plus vieux. Il avait grandi de manière extraordinaire.
Qu'est-ce qui se passe ?
Roland, qui avait gardé ce secret pour lui, tant et si bien qu'il en était devenu plus complexe qu'il ne l'était vraiment, fut surpris de la facilité et de la rapidité avec lesquelles il le révéla. Et il vit qu'il ne prenait pas Eddie totalement au dépourvu.
« Depuis combien de temps es-tu au courant ?»
Roland s'attendait à une note accusatrice dans cette question, mais il n'en entendit aucune.
« Avec certitude, depuis sa première escapade dans les bois, je l'ai vu manger. »
Roland marqua un temps d'arrêt.
« Ce qu'elle mangeait. » Je l'ai entendu parler avec des gens imaginaires, mais je le soupçonne depuis bien plus longtemps. Depuis l'AD.
Et tu ne m'as rien dit ?
Non.
Et il allait suivre les accusations, arrosées d'une bonne rasade de sarcasme à la Eddie, mais rien ne vint.
Tu veux savoir si je suis furax, c'est ça ? Si je vais faire des problèmes.
C'est le cas.
Non, je ne suis pas en colère, Roland. Exaspéré, peut-être, j'ai une trouille effroyable pour Suze, mais pourquoi je serais en colère contre toi?
N'es-tu pas le Dean? Ce fut au tour d'Eddie de marquer une pause. Lorsqu'il reprit la parole, ce fut pour se montrer plus spécifique. Ce ne fut pas facile pour lui, mais il y parvint.
« N'es-tu pas mon Dean ?»«
Si, » répondit Roland. Il tendit la main et toucha le bras d'Eddie. Il était stupéfait par le désir, presque le besoin qu'il ressentait d'expliquer. Il résista. Si Eddie pouvait aller jusqu'à l'appeler non seulement Dean, mais son Dean, il lui fallait se comporter comme tel. Il dit seulement
la nouvelle n'a pas l'air de t'abasourdir.
Oh, si, je suis surpris, fit Eddie.
Peut-être pas abasourdi, mais.
Bien. Il cueillit quelques baies qu'il laissa tomber dans le chapeau de Roland. Mais j'ai remarqué deux ou trois détails.
Ok.
Parfois, elle est trop pâle. Parfois, elle grimace et elle s'attrape le ventre. Mais quand on lui demande, elle dit que ce sont seulement des gaz. Et ses seins ont grossi. J'en suis sûr. Mais, Roland, elle a toujours ses règles. Il y a un mois environ, je l'ai vu enterrer les chiffons et il y avait du sang dessus. Beaucoup de sang. Comment c'est possible ? Si elle est tombée enceinte en ramenant Jake pendant qu'elle occupait le démon de l'agneau, c'était il y a au moins 4 mois, peut-être même 5. Même en tenant compte du fait que le temps passe bizarrement, ça fait forcément aussi longtemps.
Roland hocha la tête. Je sais qu'elle a toujours ses règles. Et ça prouve de manière irréfutable que ce bébé n'est pas de toi. La chose qu'elle porte méprise son sang de femme. »
Roland revit Susanna en train de faire éclater la grenouille dans son foin, en train de boire sa bile noire, s'empourléchant les doigts et les babines comme si c'était du sirop.
Est-ce que... Eddie fit mine de manger une macraine, puis se ravisa et la replaça dans le chapeau de Roland. Ce dernier se dit qu'il faudrait beaucoup de temps à Eddie pour retrouver un véritable appétit.
Roland, est-ce que ça aura au moins l'air humain?
Non, c'est quasiment certain.
À quoi ça ressemblera alors?
Avant qu'il ait pu y réfléchir, les mots sortirent tout seuls.
Quand on parle du diable, Eddie fit la grimace. Son visage déjà pâle vira au blanc mortuaire.
Eddie, ça va?
Non, ça va pas du tout, mais je vais pas m'évanouir comme une fille à un concert des Beatles si c'est ce qui t'inquiète.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Pour l'instant, rien du tout. On a déjà trop à faire. Ah, évidemment, fit Eddie. Les loups vont débarquer dans les parages dans 24 jours, si mes calculs sont bons. Et là-bas, à New York, on est quoi, le 6 juin, le 10? On se rapproche chaque jour un peu plus du 15 juillet, c'est sûr. Mais,
Roland, si ce qu'elle a dans le ventre n'est pas humain, rien ne nous dit que sa grossesse va durer 9 mois. Elle peut très bien accoucher au bout de 6 mois. Pensons, elle pourrait même accoucher demain matin.
Roland acquiesça et attendit. Eddie en était arrivé à ce stade de la réflexion. Il allait sans aucun doute arriver tout seul à la conclusion. C'est ce qu'il fit.
On est coincé, pas vrai?
Ouais. On peut la surveiller, mais c'est à peu près tout. On ne peut même pas lui faire miroiter l'espoir de tout ralentir parce qu'elle devinera tout de suite pourquoi on le fait. Et puis, on a besoin d'elle, pour faire feu quand l'heure viendra, et avant ça, il nous faudra former quelques-uns de ces gens avec les armes qu'on pourra trouver, probablement des arcs.
Roland fit la moue. Au bout du compte, il avait fini par toucher sa cible dans le champ du Nord avec le nombre de flèches requis par Colt, mais il n'avait jamais aimé les arcs et les flèches, ni les bas et les bolts. C'était le choix d'armes d'un James de Curry, pas le sien.
On va vraiment devoir attaquer, pas vrai?
Oh oui.
Et Eddie sourit. Il sourit malgré lui. Il était ce qu'il était.
Roland le vit et s'en réjouit intérieurement.
6.
Sur le chemin du presbytère, Eddie demanda au pistolero : T'as été franc avec moi, Roland ? Pourquoi n'en fais-tu pas autant avec elle ?
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Oh, moi je crois que si.
D'accord, mais la réponse ne va pas te plaire.
J'ai entendu toutes sortes de réponses de ta part et je crois pouvoir dire que si j'en ai aimé 1/5, c'est le maximum.
Puis, après une courte réflexion,
non, c'est encore trop généreux. Disons 1/50. Celle qui se fait appeler Mia, ce qui signifie mère en haut-parlé. Intuite qu'elle porte un enfant, bien que je doute qu'elle intuite quel genre d'enfant.
Eddie accueillit l'information en silence.
Quoi que ce soit, Mia le considère comme son bébé et elle le protégera jusqu'à ses dernières forces. Si ça veut dire prendre le contrôle du corps de Susanna de la même façon que Detta Walker avec celui d'Odetta Holmes, elle le fera sans hésiter.
« Et elle en a sans doute les moyens, » compléta Eddie d'un ton lugubre.
Puis, se tournant vers Roland, « Donc, si je comprends bien ce que tu dis, arrête-moi si je me trompe,
Tu ne veux pas dire à Suze qu'elle est peut-être en train de couver un monstre parce que ça pourrait nuire à son efficacité. » Roland aurait pu ergoter sur la sévérité de ce jugement, mais il n'en fit rien. Le fait est qu'Eddie avait raison. Comme toujours, quand il était en colère, l'accent des rues d'Eddie se fit plus prononcé. On aurait dit qu'il se mettait à parler par le nez, non plus par la bouche. « Et si les choses changent d'ici un mois, si les contractions commencent et qu'elle nous sort la créature du lagon noir, par exemple, ça va lui tomber dessus, comme ça, sans qu'elle ait rien vu venir. »
Roland s'immobilisa à environ 5 mètres du presbytère. Par la fenêtre, il apercevait Callahan en discussion avec 2 jeunes gens, un garçon et une fille. Même d'ici, il voyait qu'il s'agissait de jumeaux.
« Roland, tu dis vrai, Eddie. Est-ce que tout ça a un sens ? Si c'est le cas, je te souhaite de le trouver. Le temps n'est plus au visage qui se reflète sur l'eau, comme tu l'as fait remarquer toi-même. C'est devenu une denrée très précieuse. »
Il s'attendait de nouveau à une explosion à la Eddie, accompagnée d'une phrase du genre « Va chier !» ou « Ras-le-bol de ces conneries !» Mais là encore, rien ne vint. Eddie le fixait, c'est tout. Un regard soutenu et empreint de tristesse. De tristesse pour Susanna, bien sûr, mais aussi pour eux deux. Eux deux, debout à conspirer contre un membre de leur tête.
« Je te suivrai, » finit par dire Eddie. « Mais pas parce que tu es le Dean, et pas non plus parce que l'un de ces deux-là risque de revenir bousillé de tonnes foudres. » Il désigna de la main les gamins avec lesquels le vieux discutait dans son salon. « J'échangerai les gosses de cette ville jusqu'au dernier contre celui que porte Suze. » Si c'était le mien. Mon gosse.
Je le sais bien, répondit Roland. C'est la rose qui m'intéresse. C'est la seule chose qui mérite qu'on puisse mettre Suze en danger. Mais même, il faut me promettre que si les choses tournent mal, si elle a des contractions ou si cette poule de Mia prend le contrôle, il faut me promettre qu'on fera tout notre possible pour la sauver.
Telle a toujours été mon intention, dit Roland.
Et c'est alors que lui revint une image de cauchemar, brève mais extrêmement précise, celle de Jake suspendu au-dessus du gouffre dans la montagne.
« Tu me le jures ?» demanda Eddie.
« Oui. »
Le regard de Roland croisa celui du jeune homme, mais en esprit il revit Jake sombrer dans l'abîme. 7. Ils arrivèrent à la porte du presbytère au moment où Callahan raccompagnait ses 2 jeunes visiteurs. C'étaient sans doute les plus beaux enfants que Roland ait vus de sa vie. Ils avaient des cheveux noirs de jais qui tombaient aux épaules du garçon et jusqu'en bas du dos de la fille, qui les avait noués avec un ruban blanc. Leurs yeux étaient d'un bleu sombre et parfait, leur peau laiteuse, leurs lèvres d'un incroyable rouge vif et sensuel. Quelques taches de rousseur pâle étaient posées sur leurs joues. Jusque dans la répartition de ces taches de son, Roland constata que les enfants étaient purement identiques. Leur regard passa de Roland à Eddie, puis revint se poser sur Susanna, qui se tenait appuyée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon dans une main, une tasse de café dans l'autre. Leur visage à tous deux exprimait un mélange d'émerveillement et de curiosité. Il y avait là de la prudence, mais aucune peur.
« Roland, Eddie, je vous présente les jumeaux Tavery, Frank et Francine. C'est Rosalita qui les a fait venir. Les Tavery habitent à moins de 2 kilomètres d'ici. Vous aurez votre carte cet après-midi et je doute que vous en trouviez une plus réussie de toute votre vie. C'est l'un des talents qu'ils possèdent. »
Les jumeaux Tavery saluèrent, Frank en s'inclinant et Francine par une révérence.
« Grand bien nous faites, et nous disons grand merci, » leur dit Roland.
Une rougeur identique gagna leurs 2 visages incroyablement blancs. Ils murmurèrent des remerciements et s'apprêtèrent à se sauver. C'est alors que Roland passa le bras autour de l'épaule étroite de chacun d'eux et les reconduisit un peu sur le sentier. Il était moins saisi par leur beauté époustouflante que par la vive intelligence qu'il devinait dans leurs yeux bleus. Il était certain qu'ils allaient lui faire une carte. Et il ne doutait pas non plus que si Callahan les avait envoyés chercher par Salita, c'était pour en faire une sorte d'exemple s'il était besoin. Si rien ne venait l'empêcher, d'ici un mois, l'un d'entre eux serait devenu un idiot pleurnichard. « Sai ?» demanda Frank, cette fois avec un indéniable soupçon d'angoisse dans la voix.
« Ne me craignez pas, » dit Roland. « Mais écoutez-moi bien. »
8. Callahan et Eddie regardèrent Roland raccompagner les jumeaux Tevry le long du chemin d'allée du presbytère jusqu'au sentier poussiéreux. Tous deux partageaient la même pensée. Roland ressemblait à un grand-père bienveillant. Susanna se joignit à eux, observa à son tour, puis attrapa Eddie par le bras de sa chemise.
« Viens avec moi une minute. »
Il les suivit dans la cuisine. Rosalita était partie, ils avaient donc la pièce pour eux. Susanna avait les yeux énormes et brillants.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Eddie.
« Prends-moi dans tes bras. »
Il s'exécuta.
« Et maintenant, embrasse-moi tant que t'en as l'occasion. »«
C'est tout ce que tu veux ?»«
Ça ne suffit pas ?»«
Ça vaudrait mieux, monsieur Dean. » Il l'embrassa de bon cœur, mais il ne put s'empêcher de remarquer combien ses seins avaient grossi quand elle les pressa contre lui. Lorsqu'il se détacha d'elle, il se surprit à scruter son visage en quête d'une trace de l'autre, celle qui se faisait appeler « mère » en haut-parlé. Il ne vit que Susanna, mais il se dit aussi que, désormais, il serait condamné à rester sur ses gardes. Il faisait des efforts surhumains pour éviter de fixer son ventre. On aurait dit que ses yeux étaient aimantés. Il se demanda ce qui allait changer entre eux maintenant. Ce n'était pas là une spéculation très agréable.
« C'est mieux comme ça ? » demanda-t-il.
« Beaucoup mieux. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, puis s'évanouit.
« Eddie, quelque chose ne va pas ?»
Il sourit et l'embrassa une nouvelle fois.
« Tu veux dire, en dehors du fait qu'on va sans doute tous mourir ici ?»«
Non,
rien du tout. »
Lui avait-il déjà menti ? Il n'en avait pas le souvenir, en tout cas il ne le croyait pas. Et même s'il lui avait menti, ça n'avait jamais été avec autant d'aplomb, avec autant de calcul. C'était mal.
9. 10 minutes plus tard, armés de tasses de café frais et d'un bol de macrène, ils allèrent s'installer dans la petite arrière-cour du presbytère. Le pistolero exposa son visage aux rayons du soleil pendant un moment, savourant le poids et la chaleur des rayons sur sa peau. Puis il se tourna vers Callahan.
Nous aimerions tous les trois entendre votre histoire, père, si vous voulez bien la raconter. Et puis, pourquoi pas pousser jusqu'à votre église pour voir ce qui s'y cache?
Je veux que vous l'appreniez.
Elle n'a pas désacralisé l'église, comment le pourrait-elle, puisque Notre-Dame de la Sérénité n'a jamais été consacrée. Mais tout s'est détérioré. Même quand l'église était encore en voie de construction, je sentais que l'Esprit de Dieu y résidait. Plus maintenant. Cette chose l'a chassée. Je veux que vous la preniez.
Roland s'apprêtait à faire une réponse pour la forme, mais Susanna le devança.
« Roland, tu vas bien ?»
Il se tourna vers elle.
« Eh bien, oui, pourquoi cette question ?»
Tu te frottes la hanche sans arrêt.
Vraiment ?
Oui, effectivement. La douleur revenait déjà en rampant malgré la chaleur du soleil, malgré l'huile de chat de Rosalita. L'arthrite sèche.
Ce n'est rien, répondit-il. Rien qu'un peu de rhumatisme.
Elle lui lança un regard suspicieux, puis parut accepter sa réponse.
« On ne peut pas rêver plus mauvais départ avec deux d'entre nous qui font des secrets, » pensa Roland. « On ne peut pas continuer, ça ne durera pas très longtemps. »
Il reporta son attention sur Callahan.
Racontez-nous votre histoire. Comment avez-vous récolté ces cicatrices? Comment vous êtes arrivé ici? Comment vous vous êtes retrouvé en possession de la 13e noire? Nous voulons tout entendre dans les moindres détails.
Oui, murmura Eddie.
Dans les moindres détails, renchérit Suzanne. Ils fixaient tous les trois Callahan. Le vieux, ce religieux qui se faisait appeler père en ne se disant pas prêtre. Il porta sa main droite tordue à son front et frotta sa cicatrice.
C'était à cause de l'alcool, finit-il par dire. C'est ce que je crois aujourd'hui. Ni Dieu, ni démon, ni prédestination, pas même la compagnie des saints. L'alcool.
Songeur, il se tut quelques instants, puis il leur sourit. Roland eut une réminiscence de North, le mangeur d'herbe de Tull que l'homme en noir avait ramené d'outre-tombe. North avait ce sourire-là.
Mais si c'est Dieu qui a créé le monde, c'est aussi Dieu qui a créé l'alcool. Et c'était aussi sa volonté.
Le cas, pensa Roland. Callahan resta là, assis et silencieux, frottant le crucifix imprimé sur son front, rassemblant ses esprits. Puis il commença le récit de son histoire.